Emmanuel Mistral. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir d'être avec Paul Lefebvre. Paul, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Merci d'être parmi nous ce soir et d'être avec Emmanuel Mistral. Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors ce soir sur la table, beaucoup de sujets. Alors même si l'actualité n'est pas aussi riche que nous aurions pu le souhaiter, nous sommes heureux de pouvoir débattre pendant une heure et demie. Alors je vous rappelle le concept de cette émission. Une fois toutes les deux semaines, de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, c'est une radio libre, indépendante, que je vous invite à soutenir du mieux que vous pouvez. Évidemment, vous pouvez faire des dons et réagir à cette émission. Et surtout, je vous invite encore une fois, si vous voulez lutter contre la mainmise médiatique de la gauche depuis tant d'années, à soutenir les radios qui parlent vrai, qui parlent juste. Alors pour commencer cette émission, un sujet, alors évidemment, on va d'abord parler du sommaire. Le sommaire, nous évoquerons le sujet de la justice, puisque beaucoup d'affaires sont en cours, des affaires extrêmement médiatiques, l'affaire Sarkozy, l'affaire Le Pen, dont nous parlerons longuement tout à l'heure, et l'affaire évidemment Gérard Depardieu, ces trois affaires qui occupent l'actualité, qui saturent l'espace médiatique. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Puis le sujet qui sera peut-être un sujet crispant, mais le sujet des moyens de notre camp, des moyens de la droite pour arriver à ses fins, pour arriver au pouvoir. Est-il bon, est-il juste de censurer, est-il bon, est-il juste de prendre les méthodes de la gauche pour faire avancer nos idées? Devons-nous prendre les mêmes armes qu'eux quand on voit leurs résultats, leur guerre culturelle menée depuis tant d'années? Le militantisme est-il le frein, les partis politiques pardon, sont-ils un frein aux militants? Les partis politiques freinent-ils les idéaux, les personnalités politiques freinent-ils les idéaux militants qui parfois... à force de vouloir défendre bec et ongle leurs candidats, leurs partis, leurs structures, ne tombons-nous pas dans un parfait culte du chef en délaissant toute forme de nuance? Et puis, alors, une petite politique fiction, je vous en parlais, mais sur le sujet et après Marine Le Pen, que faire? Qu'imaginer si Marine Le Pen, la favorite de cette élection présidentielle à venir en 2027, aujourd'hui dans la tourmente, puisque lundi 31 mars, elle aura le verdict de son procès. Alors évidemment, elle pourra faire appel et nous ne sommes pas là pour nous prononcer sur les décisions de justice, mais évidemment pour nous exercer à cette fiction possible, malheureusement, dans ce pays. Avant, quelques mots pour vous, chers auditeurs, puisque j'ai eu une actualité qui était évidemment bien moindre que les sujets dont nous allons parler dans quelques instants, mais j'ai le plaisir de vous parler également de mes choix récents, puisque j'ai pris la décision de quitter mes fonctions du mouvement Reconquête. Il était important pour moi d'en parler ce soir également, pour que toutes les choses soient au clair, avec cette radio que j'apprécie énormément, qui est Radio Courtoisie, puisque c'est une radio qui a précédé mon engagement militant au sein du mouvement d'Éric Zemmour. Et donc, pour commencer évidemment cette petite explication, je suis évidemment très heureux des années passées aux côtés d'Éric Zemmour et je le remercie encore une fois pour sa confiance et je suis très heureux de pouvoir continuer mon engagement d'une façon différente dans les prochaines semaines et les prochains mois, et mon engagement de toute façon se poursuit puisque j'ai la joie, la chance et le privilège d'être à cette antenne une fois toutes les deux semaines. Alors chers amis, encore une fois, merci d'être parmi nous. Je parle évidemment à nos auditeurs, évidemment à vous Paul et à vous Emmanuel.
Merci à vous Stanislas. Et est-ce que justement vous voulez nous expliquer pourquoi vous quittez Reconquête ou pas?
Ah bah écoutez, non mais c'est une décision qui a été prise évidemment. Mince, il y a eu un petit problème studio puisque un verre a été renversé, on en sommes désolés. Mais tout va bien, la situation est sous contrôle. J'ai quitté ces fonctions à Reconquête de façon un peu moins brutale que le verre qui vient de se renverser. Mais non, c'est une décision qui a été prise, puisque ça faisait maintenant quelques années que j'étais à la tête de ce mouvement, et il était temps de passer la main à Hilaire Bouyer, qui sera le nouveau président. Et puis, je crois que si tout est politique, d'autres engagements sont possibles, et nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines d'en parler.
Et Stanislas, pour rebondir sur ce sujet-là, Hilaire donc reprend les commandes, si je puis dire, de Génération Zemmour. Et j'imagine que tout ça s'est fait en très bon terme, voire même en excellent terme, puisque vous êtes très proche d'Hilaire. Et est-ce que vous avez discuté des, vous avez participé à la réflexion sur les prochaines générations, prochain mouvement, prochaine actualité de ce mouvement jeune.
Oui, alors je crois que l'un des sujets il y a deux grands sujets dont Hilaire voudra parler dans les prochaines semaines, et je lui laisserai évidemment le soin de faire les annonces. C'est évidemment continuer la formation, et c'est l'un des chantiers importants pour notre génération et pour le mouvement jeune d'Éric Zemmour, et plus globalement pour notre génération. C'est évidemment de se former pour pallier aux résultats déplorables de l'éducation nationale et à pallier évidemment à l'université française qui est en train de se casser la figure. Et puis le deuxième point, c'est évidemment l'étranger, puisqu'il est bouillé à d'excellentes relations avec les différents mouvements à l'international, aussi bien les Suisses, qu'il aura l'occasion de visiter dans les prochaines semaines, que nos amis hollandais, italiens, espagnols. Et nous avons eu l'occasion avec Hilaire par le passé de nous rendre dans différents pays, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, où nous avons lié de solides liens.
Et vous savez ce que vous ferez ensuite ou pas encore?
Bah écoutez, j'écouterai vos conseils avec attention, mais non, je réfléchis. Je crois qu'il est important de ne pas être apparatchik en politique et de diversifier ses compétences tout en continuant de servir la cause.
On a hâte de savoir en tout cas.
Et bah écoutez, c'est gentil de vous en préoccuper. Ces quelques minutes auto-centrées sont désormais terminées et je remercie Emmanuel et Paul pour leur sollicitude et leurs questions bienveillantes. Je pense également à l'occasion d'un message que je reçois à l'instant à nos autres chroniqueurs qui ne sont pas là ce soir mais qui écoutent notre émission. Évidemment, Hippolyte Laure Blanchet, Étienne Darjac, Pierre Galland qui n'est malheureusement pas parmi nous ce soir.
On le salue, on espère qu'il va bien en tout cas.
Évidemment. Et Gabriel Minac, ainsi que Guylain Dubois, qui ne sont pas là, mais qui seront là aux prochaines émissions. Sujet justice, beaucoup moins amusant, beaucoup moins distrayant pour nous ce soir, mais un sujet qui vous a beaucoup intéressé cette semaine, c'est ces procès face à ces personnalités publiques. Donc on en parlait, Gérard Depardieu, Nicolas Sarkozy ou encore Marine Le Pen. Comment avez-vous vécu cette semaine médiatico-judiciaire, Emmanuel Mistral?
Alors, c'est vrai que c'est assez, faut le dire, c'est assez étonnant. Maintenant, on s'y habitue, mais il y a beaucoup, beaucoup de procès politiques qui émaillent l'actualité dans ces dernières années, et puis particulièrement en ce moment. Ce mois-ci, mais aussi le mois prochain, puisqu'il y aura encore François Fillon, dont les peines seront examinées dans l'affaire des emplois fictifs. Et il y aura évidemment Marine Le Pen, il y aura encore Nicolas Sarkozy dans une autre affaire, si je ne me trompe pas. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est assez triste de voir un ancien président de la République, évidemment, devant les tribunaux. Moi, je n'ai pas particulièrement envie de le défendre. Et je pense que quoi qu'on en pense, on peut dire que c'est une manipulation, qu'il est victime de je ne sais quel... attaque. En réalité, quoi qu'il arrive, moi je trouve ça assez triste que nos hommes politiques soient devant la justice, et je pense qu'ils ont forcément une part de responsabilité. Et l'autre aspect de cette semaine qui m'a intéressé, c'est évidemment le procès de Depardieu, puisque il y a eu d'autres procès de ce type, évidemment. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès qui étaient légitimes, et celui-là l'est sans doute forcément en partie. On ne finit pas devant les tribunaux en étant parfaitement... en ayant sans qu'il n'y ait de réalité derrière.
Bah, mais moi, c'est un peu le drame, Emmanuel.
C'est un peu le drame.
Non, mais au sens où ce que vous dites, c'est évidemment que dans le cas des affaires dont nous parlons, il y a des faisceaux qui permettent de penser qu'un tel ou un tel sont les cités.
Ils sont tous présumés innocents et on n'en sait rien.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des faits qui ont, le plus souvent, il y a des gens qui sont totalement innocents, mais en l'occurrence, il y a forcément des faits qui ont permis à ce que cette accusation ait lieu. Là, moi, ce qui me gêne...
C'est ça un peu le drame, Emmanuel, si je puis me permettre.
Si je prends l'exemple...
C'est-à-dire que Gérard Depardieu, pour l'instant, il est présumé innocent, il a la réputation d'être quelqu'un d'un peu vulgaire, il y a des vidéos de lui qui sont pour le moins accablantes d'un point de vue de l'opinion publique, peut-être d'un point de vue moral, et ça, je laisserai à chacun des chroniqueurs sur ce plateau se prononcer. Pour autant, judiciairement parlant, il n'est coupable d'absolument rien.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si on reprend le récit du procès, de fait, il y a des choses que Gérard Depardieu ne conteste pas. Ce qu'il conteste, il y a des faits par ailleurs qu'il conteste, mais de manière générale, ce qu'il conteste essentiellement, c'est la définition qu'on donne à ces faits Voilà, mais il y a quand même des actes qu'il a posés et qu'il assume. Et qui voilà, légitime cette action en justice. Moi, ce qui m'a gêné, et ce sur quoi d'ailleurs un article du Monde est revenu de manière assez intelligente, je trouve, c'est l'article s'intitule « Le crépuscule d'un monument de l'ancien monde ». Et je trouve ça assez juste parce qu'en fait, on a l'impression que ce type de personnalité est en fait, quoi qu'il arrive, perdante, prisonnière d'un système médiatique et d'un système social, on pourrait dire, enfin en tout cas, de pression sociale, parce que voilà, Gérard Depardieu, de fait, vient d'un autre monde, qui est le monde des années 70, et même si moralement, il a pas forcément, on n'est pas obligé de cautionner, je pense que le procès dépasse en fait le cadre juridique, et qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans les témoignages, on l'a vu dans les répercussions médiatiques, on l'a vu dans les manifestations, avant même d'être un procès, un procès... juridique, il y a une forte pression médiatique, et c'est ça qui est détestable. Et l'exemple, évidemment, qu'on connaît, c'est le regard que maintenant on porte sur ces films. Et en cela, moi, j'ai trouvé le témoignage de son amie Fanny Ardant extrêmement déjà élégant et courageux de sa part. Et d'ailleurs, elle a mentionné que d'autres de ses amis n'avaient pas voulu faire ce même témoignage. Et je pense qu'elle a eu le courage de, sans défendre... excessivement Gérard Depardieu, de remettre quand même certaines évidences sur le fait que, quoi qu'il arrive, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mélanger sa carrière avec sa vie personnelle. Et puis, il faut aussi ne pas être anachronique dans notre jugement. De fait, c'est un homme d'un autre temps, et notamment avec la révolution MeToo, les mœurs ont énormément changé. Donc il y a quand même
c'est toujours le débat, c'est est-ce que les mœurs ont changé ou la parole s'est libérée d'une certaine façon, c'est-à-dire que certains comportements, sans justement faire défendre du phénomène MeToo, et certains comportements étaient déjà répréhensibles à l'époque, mais étaient simplement mis sous le tapis, parce que justement, mainmise, notamment dans le monde du cinéma, de certains producteurs, de certains grands acteurs. Sûr. Et donc, c'est toujours un peu ce qui est ambigu, et ça me permet de passer la parole et d'interroger Paul Lefebvre sûrement là-dessus, mais la sensation que j'ai en suivant ces affaires, notamment, je sors du cadre politique de François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, mais dans le cas d'affaires concernant des personnalités publiques comme Gérard Depardieu, j'ai l'impression que le camp national ou la droite française plus généralement a tendance non pas à les défendre directement ou publiquement, mais en tout cas à au moins en privé se dire, bon, vu les personnes qui attaquent Depardieu, c'est tous des gauchistes, ils sont place de la République, ils ont les cheveux bleus, donc en fait Depardieu il est victime d'une époque de woke, dégénéré, censeur et absolument castrateur pardon, dans leur approche de la vie sexuelle des gens, de la liberté des gens, etc. Et c'est un peu le sentiment que je peux avoir en regardant tout ça.
Oui, je vois très bien ce que vous dites. Pardon. Mais simplement pour dire, avant de vous laisser la parole...
Voilà, c'était dans une boutade.
Je comprends très bien. Moi, de fait, ce n'est pas mon point de vue et je pense que... Je ne pense pas de cette manière, mais ça m'a marqué en lisant le récit du procès de voir que en fait cette dimension-là était quand même extrêmement présente et j'avais pas l'impression. Enfin, je trouve qu'il y a une forme de partialité en fait dans ce procès et c'est assez dommage et d'ailleurs ça montre aussi une certaine faiblesse, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas capable d'assumer d'aborder ce sujet-là en enlevant sa dimension un peu polémique et d'enlever l'image qu'on avait de Gérard Depardieu et de n'observer que les faits. C'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant le récit ce matin.
Paul Lefebvre qui avait en plus de ça, hein, il faut le dire pour nos auditeurs, un regard avisé sur les questions médiatiques, puisque vous avez une certaine expérience désormais.
Merci beaucoup. Moi, effectivement, je suis assez mal à l'aise avec ce procès parce que je pense que ce qu'a fait Gérard Depardieu et les vidéos qu'on a pu voir dans certaines émissions, sur certains réseaux sociaux, etc., effectivement, c'est pour le moins qu'on puisse dire assez peu flatteur. Et de ce point de vue-là, on n'a pas forcément envie de défendre un homme qui se comporte d'une telle façon. Et ceci dit, je pense que ce qui est assez injuste, et c'est ce que vous avez assez bien dit, Manuel, c'est que c'est l'homme d'un autre temps, et en fait... on a du mal à voir dans quelle mesure le procès est celui de Gérard Depardieu ou celui de l'autre temps qu'on est en train de quitter. Et c'est pour ça aussi que peut-être qu'il y a un réflexe pavlovien de la droite qui veut rester accroché à une certaine époque et avec un peu de nostalgie et en voulant préserver cet autre temps, cette époque révolue qui se retrouve à défendre des gens et des comportements surtout qui objectivement... ne méritent pas forcément d'être défendus, effectivement, qui sont, à défaut d'être des infractions, au moins dégoûtants. Et donc, de ce point de vue-là, pour le coup, c'est ce qui pourrait presque me donner un peu de pitié et de compassion pour Gérard Depardieu, c'est que malgré ce qu'il a fait, il n'a pas à être jugé pour la libération sexuelle des années 70. En fait, c'est pas lui qui est responsable. C'était une époque qui était encouragée par
par toute la gauche,
par toute la gauche,
par la gauche
d'hier, qui le condamne,
condamné par la gauche d'aujourd'hui,
par tout le système médiatique, tout le système surtout culturel. Et c'est pour ça que personne ne disait rien, parce que c'était valorisé, c'était encouragé. Et donc, de ce point de vue-là, il a, je pense pas qu'il ait à faire les frais de comportement dont il est responsable de ses comportements, mais il n'est pas responsable de l'histoire de son époque.
Non, c'est vrai, il n'a pas à payer pour, évidemment, ce qui s'est passé avec la libération sexuelle prônée, il faut le rappeler à chaque fois avec force, par une partie de la gauche. Pour autant, c'est un peu toujours la ligne de crête que l'on doit, sur laquelle nous marchons, notamment nous, notre génération à droite. Il y a un retour extrêmement fort du puritanisme depuis quelques années, et je crois que Éric Zemmour, pour le coup, en parle extrêmement bien depuis quelques années. Mais voilà, défendre, s'opposer à cette gauche qui aujourd'hui veut tout détruire et veut emprisonner l'homme, veut de nouveau retenir à une époque castratrice et tout ce que vous voulez, c'est très bien, mais est-ce que notre cheval de bataille doit être Gérard Depardieu pour dire c'est le vieux monde qui essaie de tuer, Gérard Depardieu représente le vieux monde, donc il faut défendre Gérard Depardieu, tout comme la gauche se trompe, à mon sens, d'un point de vue intellectuel, en disant on veut tuer le vieux monde, Gérard Depardieu représente le vieux monde, donc il faut tuer Gérard Depardieu.
Exactement, et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais on n'est pas obligé de reprendre tout le temps les méthodes de la gauche, et de ce point de vue-là...
Mais c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de défendre des types
non,
qui...
Non, exactement, je suis d'accord. Et c'est pas parce que la gauche prend des boucs émissaires pour faire avancer ses causes que...
qu'on est obligé d'en faire des égéries.
Qu'on est obligé de, voilà, exactement, de défendre ces personnes-là qui ne sont pas forcément défendables.
Oui, mais à l'inverse, justement, vous avez tous les deux dit, et je me fais évidemment un peu l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots, puisque Gérard Depardieu n'est pas le diable et que je ne suis pas avocat. Non, je rigole évidemment. Non, simplement, vous avez tous les deux dit, et vous êtes tous les deux présenté le procès de Gérard Depardieu comme le procès de l'ancien monde, ou peut-être d'un ancien monde. Mm-hmm. Et donc, de fait, en mettant sur un piédestal Gérard Depardieu, étant l'incarnation de cet ancien monde. Mais vous-même, en réalité, en disant cela, vous lui accordez un crédit qui est immense. C'est qu'il soit un grand acteur, très bien, que son morphotype incarne la France des années 70, très bien. Est-ce une raison pour considérer qu'il est le représentant d'une époque dont vous êtes nostalgique sans l'avoir connu?
Mais justement, moi je pense que...
pour faire un peu le gauchiste, quoi. Mais...
non mais moi, non, en l'occurrence, cet ancien monde, enfin moi c'est pas celui que je souhaite, c'est pas celui dont je suis nostalgique. En réalité, la libération sexuelle, c'est pas vraiment mon... Enfin, c'est pas un modèle que
on s'en serait douté.
Non, mais voilà, c'est quand même un monde qui est responsable de tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan moral, et même aussi d'ailleurs sur le plan économique. Donc moi, ce que je ne défends pas, c'est pas l'ancien monde de Gérard Depardieu. Ce que je trouve dommage, c'est que dans trop de procès aujourd'hui, et notamment qui concernent ce type de personnalité, on sent très bien qu'il y a un mouvement qui est beaucoup plus fort que celui de la justice. Et c'est ça qui est dommage. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a une... Mais un peu, c'est exactement la même chose pour l'histoire. On sent bien que quand le regard qu'on porte aujourd'hui sur une époque précise, par exemple sur le Moyen-Âge, est un regard qui est anachronique. Et nous, jeunes gens de droite du XXIe siècle, on ne veut pas reproduire le Moyen-Âge. On ne veut pas reproduire par exemple, des pratiques, des habitudes de vie qui aujourd'hui nous semblent étonnantes. Simplement, moi, ce que je trouve dommage, c'est évidemment cette incapacité à juger les choses avec objectivité. Et surtout, ce que je trouve effrayant, c'est la force qu'a aujourd'hui la gauche sur ces sujets-là, sur ces sujets judiciaires. On sent très bien qu'ils ont une puissance quand même qui est assez extraordinaire, à la fois médiatique et puis aussi militante, parce qu'ils ont une capacité à se mobiliser sur ce type d'affaires et à les monter en épingle. Le procès de Depardieu devait être un grand procès, mais c'est assez impressionnant de voir l'ampleur qu'il a prise.
Êtes-vous d'accord, Paul Lefebvre, avec ce mantra, je crois que le terme est le bon, de la droite de notre camp, de souvent dire que les procès sont faits sur les plateaux télévisés, dans les journaux, plutôt que dans les tribunaux?
Oui, bien sûr.
Est-ce que dans les faits, c'est réellement appliqué?
Oui, je pense, mais je pense que c'est inévitable, évidemment, parce que On va pas attendre 2 ans entre le moment où l'information qu'une plainte a été déposée contre un tel et le jugement sorte pour en parler. Donc ça, je pense que c'est malheureusement inévitable.
C'est presque une bonne chose de temps en temps. On est content que la justice, les forces de l'ordre se saisissent aussi rapidement de l'affaire du petit Émile.
Alors oui, mais en l'occurrence, les médias, c'est les médias qui s'en saisissent vite.
La justice pas tellement. Poussée un petit peu.
Elle va à son rythme et elle fait ce qu'elle peut. Mais
elle manque de moyens.
Et elle manque de moyens, évidemment. Mais ça va pas très vite. Bah, on le voit très bien pour Émile. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il a disparu cet été. Et on en est aux premières gardes à vue. Enfin bon, c'est une digression, mais en tout cas, ça prend son temps. Et les médias et certains journalistes ont eu l'occasion d'avoir des théories, des nombreuses théories plus ou moins fondées sur la personnalité du coupable. Déjà,
il y a eu beaucoup de travail pour avoir moi-même suivi de très près des journalistes travaillant sur ce travail, enfin sur cette sordide affaire qui est l'affaire du petit Émile. Le travail journalistique facilite aussi, il faut le dire parfois, le travail de la justice et des forces de l'ordre.
Je pense pas, parce que c'est pas le même travail. Mais
Oui, mais ils vont plus vite, ils ont cette espèce de flexibilité, ce rapport aux sources, ce rapport à
l'efficacité de la vérité. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas le même objectif,
de la vérité.
Ils cherchent pas la vérité, justement.
Et puis, si je puis me permettre, c'est ça, je pense que, pour revenir au sujet, les deux sujets sont, à mon avis, incomparables, parce que sur le petit Émile, il y a une vraie dimension d'enquête, et on connaît des journalistes très talentueux qui rédigent d'excellentes enquêtes. En revanche, pour ce qui est de Gérard Depardieu, le journaliste et les journalistes qui se sont prononcés, pareil dans l'affaire Nicolas Bedos, qui était condamné, ne se sont pas prononcés pour apporter des faits, pour aider la justice. Au contraire, ils se sont prononcés sur le volet moral. Or, la justice n'a pas du tout besoin de l'aide de ces journalistes pour dire si le vrai et le faux, ce qui est juste dans les faits qui lui sont reprochés. Et d'ailleurs, l'exemple de Bedos va dans le même sens. Pour le coup, les faits étaient, sans vouloir les légitimer étaient, ou les défendre, étaient assez faible, et il a subi un procès médiatique parce qu'il a subi la condamnation d'une époque, d'un style de vie, d'une incarnation. Et c'est ça qui aujourd'hui, je trouve, se produit quand même très souvent.
Mais pour terminer sur ce sujet, peut-être qu'après on pourra passer au procès Sarkozy et du RN, mais pour finir sur ces projets de mœurs, entre guillemets, c'est effectivement, en fait, c'est à la fois, c'est assez compliqué comme position, parce qu'à la fois, le comportement, comme le dit Emmanuel, on le cautionne évidemment pas, mais pour autant, faut pas être anachronique, et je pense que, voilà, c'est pas Depardieu de payer pour son époque, et à une époque où c'était permis et encouragé ces comportements-là.
Il y a prescription en réalité, c'est ça.
En l'occurrence, je suis pas sûr, mais sauf que.
Bah donc voilà, c'est là où je comprends pas votre argument, j'ai fait exprès d'être un peu taquin.
Mais ce qu'il y a, c'est que.
Et anachronique, pardon, ces gestes, encore une fois, ils ont à être jugés en tant qu'acte mauvais ou bon, ou en tant que geste.
Le problème, c'est que moi, encore une fois, en lisant le récit, j'ai pas l'impression que beaucoup d'accusations, beaucoup de témoignages ne portaient pas sur ces gestes. Beaucoup de témoignages
sur
l'incarnation,
en fait,
sur le personnage médiatique qu'il est, sur le personnage qui est connu, en fait, parfois même, les accusations portent sur l'espèce de France qu'il incarne aux yeux de certains, fantasmée plutôt d'ailleurs par ceux qui l'accusent que par Gérard Depardieu lui-même. Et c'est ça qui est dommage, c'est que moi je ne veux pas défendre ce qu'il a fait. En revanche, je pense que les attaques que Gérard Depardieu subit sur certains sujets, en fait, nous cible aussi, c'est-à-dire que c'est une mine de rien. Moi, je ne veux pas défendre encore une fois les années 70, mais par contre, je pense que certains l'accusent parce qu'il incarne trop la France, parce qu'il incarne trop une certaine vision.
Alors, moi, je suis pas d'accord pour le coup.
Ah, moi, je l'ai senti pour le coup.
C'est parfait parce qu'on va passer une chanson qui n'a pas de lien, avec notre sujet. Emmanuel m'a fait une très belle transition en parlant de Nicolas Bedos. Si on parle justement des moyens légitimes ou non de combattre nos adversaires politiques, mais vu que vous n'êtes pas d'accord, on y reviendra. Merci beaucoup, chers amis, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie avec Prolongation.
Fait gris sur la vie, il manque un ami, la dame blanche l'attendait. Fait lourd sur la nuit, quand on est saisi par l'avalanche des regrets. On essaie d'inventer encore. encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblés sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages. Il est parti pendant l'orage. Personne ne l'a vu s'éloigner. À chacun sa vie, on l'a souvent dit, sans jamais vraiment le penser. Il pleut de l'ennui sur les vieux treillis, au souvenir du temps passé. Les bardes qui ne chassent résonnent encore de ses rengaines. Le ciel de Djamena est un jardin dans son domaine. Et quand on voit passer les oies sauvages en escadrille dans les nuages, on a parfois de drôles d'idées. Écoute, dans le sifflement des mirages, on croirait qu'elle lance un message, sûr que c'est lui qui l'a dicté. Apportez-nous des verres, on va trinquer à nos galères. Allumez les lumières à la mémoire de notre frère. Un jour, on rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage, en transit pour le long voyage, celui dont on ne revient jamais. On rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage, en transit pour le long voyage, celui dont on ne revient jamais.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Et de retour en studio à Paris avec mes invités du soir pour l'émission Prolongation. Je suis toujours avec... Paul Lefebvre, qui me fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, et Emmanuel Mistral. Emmanuel, Paul, bonsoir de nouveau, merci d'être là.
Bonsoir Stanislas, merci beaucoup.
À nouveau.
Écoutez, l'honnêteté m'oblige à lire un courriel, l'un des nombreux mails, messages que l'on reçoit tout au long de l'émission. Un courriel qui me reprend, puisqu'il faut nous reprendre quand nous faisons des fautes, quand nous commettons des erreurs. Bonsoir à tous, un petit détail, on ne dit pas pallier à quelque chose, mais pallier quelque chose. Le pallium est un manteau romain repris par l'Église pour les prélats. Pallier, c'est couvrir d'un manteau, pardon. Bravo en revanche pour votre engagement et pour l'émission, bien courtoisement. Bah écoutez, merci Laurie pour ce courriel. Vous avez raison de nous reprendre. Je n'hésite pas d'ailleurs à reprendre mes chroniqueurs souvent fautifs d'erreurs politiques, alors n'hésitez pas à me reprendre sur mon langage. Paul, vous souhaitiez répondre à Emmanuel sur le sujet de la justice, de Depardieu, le sujet qui nous animait il y a quelques instants.
Oui, simplement pour clore le sujet, mais là où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, c'est que quand vous dites que en voulant atteindre Depardieu, ses ennemis cherchent à atteindre une certaine façon de vivre et une certaine France, Ça pourquoi pas, mais je pense que pour autant, ça n'impose pas de se raccrocher à tout prix aux branches pour défendre des gens qui ne méritent pas forcément de l'être. Et que, en fait, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a des comportements. Enfin, justement, je pense que c'est la pire défense qui soit, c'est d'admettre des comportements qui ne sont pas admissibles, tout simplement, et qu'on a assez de gens qui défendent une façon de vivre et une façon d'être français, qui sont tout à fait honorables pour ne pas. Ne pas se raccrocher aux personnes connues qui le sont parfois moins.
Oui, enfin, vous avez tout à fait raison, Paul. Mais moi, je pense deux choses par rapport à votre remarque avant de définitivement conclure sur ce sujet. Mais
même si Paul répondra de nouveau.
Mais c'est d'une part, défendre en quelque sorte Depardieu, c'est pas le défendre sur ses actes qui lui sont reprochés, c'est défendre sa figure, c'est défendre ses films, c'est défendre l'acteur qu'il est. D'ailleurs, il y a un grand réalisateur dont j'ai oublié le nom, mais qui disait que Gérard Depardieu était sans doute le plus grand acteur du cinéma français. Donc je pense que ça déjà, faut pas l'oublier, il faut quand même dissocier les deux. Et ensuite, l'autre chose, c'est que vous avez raison, on est souvent pris dans un piège qui est délicat, c'est que moi je pense qu'on attaque Gérard Depardieu parce qu'il a sans doute quelques faits, et ça c'est un débat juridique, mais aussi par la figure qu'il représente pour la France. Et donc on est dans une position difficile parce que nous ne sommes pas Gérard Depardieu, nous ne voulons pas que Gérard Depardieu soit notre égérie. En revanche, moi je pense, je suis persuadé que les ennemis de Gérard Depardieu veulent attaquer la France à travers Gérard Depardieu. Donc moi j'ai envie quand même, parce que je me sens plus proche de Gérard Depardieu que de ses ennemis, de le défendre. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de tomber dans le piège d'en faire un étendard.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Oui,
c'est un peu ça en réalité.
Et pour revenir un tout petit peu sur l'affaire Bedos, sur un autre sujet, c'est un peu la même chose, puisque Nicolas Bedos, comme vous le rappeliez tout à l'heure pendant la pause musicale, n'est pas du tout au même titre que Gérard Depardieu, l'incarnation de la France et l'incarnation d'un certain patrimoine, puisqu'il a souvent détesté la droite, insulté les personnalités de droite et tout ça. En revanche, sur la question de la masculinité, il est attaqué par les féministes, alors qu'il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de faits derrière ça, parce qu'il incarne la masculinité.
Une main aux fesses, hein, pour être très précis.
Et ce qui est délicat, c'est que nous ne voulons pas défendre la même vision de la masculinité que Nicolas Bedos. En revanche, nous sommes plus proches de la vision de Nicolas Bedos que de la vision de l'extrême-gauche et des féministes qui l'attaquent. Et surtout, je pense que la gauche, en attaquant Nicolas Bedos, pense attaquer la vision masculine qui domine en France. Donc c'est vrai, on est dans une position délicate, et je pense que, mine de rien, il faut essayer, non pas forcément de les défendre à corps perdu, mais en tout cas de rétablir une forme une dissociation entre les faits juridiques et l'incarnation que représentent ces personnalités.
Et bien, écoutez, vous faites une transition, une fois n'est pas coutume, absolument parfaite, cher Emmanuel, puisque...
C'est quand même la deuxième fois de ce soir, on peut le saluer.
Moi, je n'en ai noté qu'une.
Si, si, de fait, j'en ai fait
de la musique.
Oui. Ah oui, oui, mais c'est oui. La même en réalité. C'est toujours sur Bedos, donc Nicolas Bedos qui est l'égérie intellectuelle d'Emmanuel Mistral, en revanche. Enfin, c'est votre...
Ah non, je dirais pas. D'ailleurs, confession, je n'ai pas du tout vu tous les OSS 117 qu'il a réalisés, et je suis pas forcément...
Il en a réalisé un seul, il me semble.
Deux, non?
Un seul, il me semble.
Ah bah décidément, je le connais très mal, et ce n'est définitivement pas mon égérie.
Mais il est pas si mauvais que ça, d'ailleurs, son OSS 117-3. Je sais pas si vous l'avez vu, Paul
Celui avec Pierre Niney.
Oui.
Non, moi je l'ai pas vu, mais j'en ai pas forcément entendu du bien, d'ailleurs.
Oui, mais je crois qu'il a été critiqué très sévèrement, oui. parce que en Afrique, avec une petite dose de wokisme...
Il a été un peu pris entre deux feux, en fait.
Ouais, exactement.
Ah, oui.
Par les gauchistes, en disant c'est OSS 117, ouais. C'est la vieille France, c'est Jean Dujardin, etc. De l'autre, par les types de droite qui sont tombés sur le film en disant « Évidemment, bah c'est en Afrique, donc en fait, ça va être ouin-ouin, la colonie, etc. » Et en réalité, non mais c'est vrai, c'est là, je dis ça évidemment de façon caricaturale, mais la réalité, c'est que il est plutôt drôle, plutôt subtil, que beaucoup de blagues se cachent dans les détails de ce film, que Pierre Niney, qui est sûrement, pour le coup...
Original pour un OSS 117.
Ah non, mais alors là, c'est là où vous avez toujours très mal regardé les OSS 117. Non, mais premier degré, je crois que le génie des OSS 117, le génie, le mot est un peu fort, mais l'idée des OSS 117, c'est qu'il y a la partie humoristique en surface.
L'émission dérape complètement.
Non, mais oui, mais c'est hyper intéressant. Il y a ce que l'on voit en surface, à savoir les blagues connues, comment est votre blanquette, les choses un peu potache, un peu OSS 117, les cascades, les courses-poursuites grotesques, ubuesques, tout ce que vous voulez. Et derrière, il y a toutes ces petites références, tous ces petits détails dans le fond, dans le décor, qui sont absolument incroyable. Et quand on a eu la chance, comme moi, de, ou alors justement le peu d'ouverture comme moi, de ne regarder que trois films dans sa vie, à savoir les deux OSS 117 15 fois et Bad Fait de la Résistance 15 fois, on commence à les repérer.
Et les choristes.
Les choristes et maintenant le Comte de Monte Cristo. Parce que comme dans OSS 117, il y a le plus grand et le plus complet des acteurs français, à savoir Pierre Niney.
Gérard Depardieu. Ah.
Pierre Niney, qui est, je crois, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus de sujet, c'est un sujet qui a été clos il y a peu de temps. Mais
ce sera l'objet d'une autre émission, je crois.
Je rigole, chers auditeurs, on va revenir à un sujet plus sérieux, puisque c'est vrai que nous pourrions faire une émission sur le cinéma, mais je disais ça puisque Emmanuel Mistral est un
féru.
Est un féru de cinéma, et surtout un ennemi résolu et déterminé du Comte de Monte Cristo version Pierre Niney. Alors évidemment, on
n'hésitez pas
tous
à envoyer des mails d'ailleurs pour dire ce que vous en pensez. On attend vos commentaires.
Et si vous l'avez vu ce film, moi je suis très fan des. Je suis un grand adepte des musiques qui sont absolument incroyables. Bon, ceci étant dit, recentrons nos sujets. Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, on l'a dit, a été un adversaire farouche de nos camps, a incarné le gauchisme bobo le plus complet par sa personne. Et aujourd'hui, il paye le fait, si nous sommes encore une fois dans la caricature, de l'homme blanc hétérosexuel blanc pourchassé par des gauchistes féministes excités qui lui tombent dessus pour une malheureuse main aux fesses, condamné d'ailleurs pour cela. La question qui est pour nous, ce n'est pas de savoir si on défend Bedos ou pas, ce n'est pas le sujet. Pour autant, la gauche utilise des méthodes d'une violence rare, la justice, la censure, les attaques parfois physiques, la calomnie, la caricature, on l'a vu évidemment avec Charlie Hebdo pendant des années, le canard enchaîné, pour les calomnies, pour les attaques perfides, la censure avec l'université. Et la sensation que j'ai depuis quelques mois maintenant, c'est qu'évidemment la droite est toujours victime de ces tentatives-là. On l'a vu avec C8, on le voit avec l'Arcom, on le voit avec Éric Zemmour qui a encore été condamné à 9000 euros pour avoir dit que les tueurs du petit Thomas, enfin que ceux qui tuaient étaient les Chaïds et ceux qui se faisaient tuer étaient les Thomas. On le voit avec le procès de Le Pen et le procès Fillon. On est encore harcelé d'un côté, mais de l'autre, et je vais arrêter de parler, je vais donner la parole à mes excellents chroniqueurs, mais de l'autre côté, on a Jean-Michel Apathy sur RTL qui est mis à pied puis quitte la radio après des propos sur la guerre d'Algérie et sur Arnaud Durand-Sudlane, un humoriste du service public viré parce qu'il y a une polémique sur les réseaux sociaux qui explique que c'est un islamiste et parce qu'il a fait des blagues à l'époque qui sont soit interprétées comme étant des blagues potaches, un peu mascu, soit comme des blagues islamistes ou alors des propos islamistes, a été viré. On a récemment eu des vagues de pression sur tel ou tel spectacle de drag queen, tentative de rencontre de gauche. On a évidemment eu l'affaire autour de Cyril Hanouna et de la caricature qui a été faite par la France Insoumise, qui a valu à la France Insoumise des torrents d'insultes, d'injures et de campagnes contre eux. Est-ce justifié, puisque ce sont nos ennemis politiques et ne nous font jamais aucun cadeau? D'ailleurs, dans certaines affaires que je viens d'évoquer, les attaques sont très souvent méritées. Mais est-ce une bonne chose, par honnêteté intellectuelle, pour notre camp? Et plus globalement, si la droite a toujours du retard sur la gauche, n'est-ce pas parce qu'elle lui court après, au lieu d'essayer de créer son propre paradigme de lutte politique? Paul ou Emmanuel, je vous ai laissé sans voix. C'était brillant, je sais.
c'est délicat. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, et je pense que...
J'ai posé deux trucs, efficacité ou honnêteté.
Mais en fait, je pense que la droite...
Caricature.
Je vais pas faire de la nuance à deux balles, mais déjà, c'est au cas par cas. Mais en règle générale, je dirais que la droite a raison de pas se laisser marcher sur les pieds et qu'en fait, il y a un moment, quand on a, pour parler de l'exemple que vous donniez, là, Merwan Benlazar, qui est humoriste sur France, qui vient sur C'est à vous, qui est sur la radio publique, etc., quand on voit les propos qu'il a tenus, notamment sur les réseaux sociaux, dans ses spectacles, etc., en fait, que quelqu'un comme ça n'ait pas accès, c'est pas qu'il n'ait pas accès, parce que la question, c'est pas de le censurer, mais qu'il ne soit pas promu pour autant, notamment par le service public, moi, ça me choque absolument pas. Et qu'on s'oppose à ce que le service public fasse la promotion de personnalités ou d'idées De gauche, tout simplement, qui sont contre notre camp, ça ne me choque pas. Après, ça dépend des moyens qu'on met en œuvre pour ça, évidemment. Mais je pense, enfin, à ma connaissance, ou alors en tout cas, c'est rarissime, mais que les faits de violence, pour le coup, proviennent toujours de nos adversaires, exclusivement. Et que, en fait, faire de la, des campagnes d'opinion et de la pression médiatique, je pense que c'est plutôt de bonne guerre.
Emmanuel ?
Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Simplement, peut-être comme Paul, je ne suis pas d'accord avec les exemples que vous prenez. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes les personnalités de gauche que vous avez citées avaient effectivement plus que dépassé les limites et qu'il était non pas de bonne guerre, mais qu'il était légitime à la droite et de s'indigner. Alors peut-être que certains... ils sont allés trop vertement, mais je crois que vraiment ces personnalités-là n'avaient pas la place à la radio et que c'était vraiment des motifs suffisants d'indignation. Et d'ailleurs, je pense que si la droite n'avait pas réagi avec cette virulence et que ces personnalités étaient restées par exemple à l'antenne, ça nous aurait choqué en fait qu'on n'ait pas à droite la puissance de frappe pour faire changer ces choses et faire changer des émissions qui font la promotion d'humoristes de ce type. Donc ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on réagisse à ces faits qui, à mon sens, sont assez graves, mais c'est que certains, en tout cas, se limitent à cela. C'est-à-dire que, de fait, on voit que sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, il y a une vraie, comment dire, il y a un vrai combat qui est mené par des influenceurs de droite qui harcèlent des personnalités de gauche, qui les insultent, qui essayent d'aller chercher dans leur vie privée avec des méthodes parfois assez hallucinantes et qui ressemblent à celles de la gauche des faits pour les condamner. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ça se limite à ça. Pour moi, c'est des choses qui sont toujours faites, voilà, qu'on réagisse à une polémique, qu'on essaye comme ça de monter une affaire. Ça a toujours existé. Mais par contre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, certains se spécialisent là-dedans. Et un peu comme la gauche le fait, qu'on n'est plus du tout un combat d'idées, qu'on n'est plus des propositions, qu'on n'est plus voilà, mais qu'on est des vraies meutes comme ça, notamment sur les réseaux sociaux, et que la politique se résume à ça. Moi, c'est plutôt ça qui me gêne.
Oui, mais et si nous croyons les discours employés par les figures de notre camp, à savoir que la guerre civile couve, que la situation est urgente, et que nous sommes en réalité en guerre politique avec nos adversaires, n'y a-t-il pas, d'une certaine façon, le moyen de se dire, après tout, à la guerre comme à la guerre, plus de pitié, plus de cadeaux. Je fais exprès d'employer des termes militaires et volontairement guerriers pour illustrer mon propos, mais si nous allons au bout de la logique, si nous considérons par exemple comme beaucoup que la France insoumise est aujourd'hui un agent de l'étranger, ou en tout cas ne lutte plus pour les intérêts nationaux, et encore moins pour l'intérêt des Français, mais pour des intérêts bien différents, n'y a-t-il pas de raison de se dire qu'après tout, censurons-les, interdisons-leur de s'exprimer, considérons-les comme des ennemis, comme ça a été réclamé par des adversaires politiques il y a encore peu de temps. Certains voulaient empêcher Éric Zemmour d'être candidat à l'élection présidentielle, le système des parrainages a fait pour beaucoup, certes de façon subtile, mais pour empêcher... des candidats dits plus petits ou en tout cas dits hors cadre de se présenter. Jean-Marie Le Pen a été harcelé par le passé. On a toujours été dans Fillon, Sarkozy ont été harcelés judiciairement parlant. Enfin, est-ce que nous sommes pas à chaque fois trop bons, trop cons? Alors permettez-moi, chers auditeurs, cet écart de langage, mais est-ce que ce n'est pas ça en fait le fond du problème dans notre camp, trop bons, trop cons?
Bah, c'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut pas se laisser faire et il faut être capable d'agir et que quand Apathy fait une sortie scandaleuse, que la droite soit capable de faire pression pour qu'on l'entende un peu moins, parce qu'il reste très présent, ça, je trouve ça très bien. Après, on est peut-être en guerre, mais ça ne justifie pas tous les moyens et ça ne justifie pas d'abandonner justement les principes pour lesquels on se bat. Et censurer quand on prétend défendre un peu de liberté et un peu de même de confiance dans la population et dans la démocratie, je pense pas que ce soit une solution. Donc ne pas, en fait ça dépend des exemples que vous prenez. Si c'est
Typiquement les trois que j'ai pris tout à l'heure, l'humoriste, vous en avez parlé, l'humoriste du service public dont je n'arriverai pas à prononcer le nom sans l'écorcher, c'est pour ça que je ne le prononce pas. Mais typiquement, dans le cas d'un Guillaume Meurice sur le service public, qui fait une blague sur le prépuce de Monsieur Netanyahou.
Bah en fait, moi je pense pas qu'il faudrait le virer pour ça.
Ah bah
je
voilà,
pense qu'il faudrait le virer parce que il y a que des gauchistes sur le service public.
Mais il faudrait l'équilibrer.
Et qu'il faudrait, exactement. Mais qu'il y ait des blagues comme ça de tous les côtés, moi ça me choquerait pas en soi.
Bah, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas le problème central. Enfin, une blague de Guillaume Meurice n'est pas le problème central du service public. Mais après, voilà, moi en soi, ça me dérange pas qu'un humoriste soit viré parce qu'il a dépassé les limites. C'est l'éternel débat de est-ce qu'on peut rire de tout. De fait, je pense que quand un humoriste dépasse une limite, oui, je pense que c'est bien qu'il soit sanctionné. Moi, ça me choque pas. Et d'ailleurs, les journalistes, je pense qu'ils jouent en fait évidemment sur cette ligne de crête et que de temps en temps ils perdent. Ça arrive. Moi, ça me gêne pas. Mais pour revenir à votre remarque, Stanislas, qui était très très pertinente, c'est que moi, je pense que le jour où effectivement on jouera, on assumera ou en tout cas on considérera de manière systématique que nos ennemis sont les ennemis de la France et qu'il faut lutter avec les mêmes armes sans aucune limite, en fait, je pense qu'on aura, d'une certaine manière, un peu perdu, puisqu'on assumera en fait, qu'il n'y a plus aucune espérance et que c'est un combat avec deux camps absolument irréconciliables. Et surtout, ça veut dire qu'on assume la loi du plus fort. Et dans ce cas-là, bah, si on perd, malheureusement, on sera contraint de l'avouer en quelque sorte. Et je pense que c'est abdiquer en fait la politique, mais que c'est peut-être ce qui va nous arriver, que ce sera le signe d'une vraie rupture absolument irrémédiable. Mais je veux espérer qu'on n'en est pas encore là et qu'on peut considérer nos ennemis non pas comme des ennemis de la France, mais comme des ennemis politiques. Mais peut-être que je me trompe et qu'il faut absolument qu'il y ait deux camps irréconciliables et qu'on se batte avec les mêmes armes. Je pense qu'il reste quand même un peu de politique encore.
Bah, j'ose espérer comme vous. Alors, deux choses. L'une, évidemment, j'espère que ce que vous dites est vrai et que vous avez raison. Simplement et très rapidement, moi, la fâcheuse tendance que je vois se dessiner dans le pays, c'est que des militants d'extrême-gauche, LFIsés et en nombre, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une petite minorité, ne supportent pas la présence d'adversaires ou d'ennemis politiques et ils en font des ennemis mortels, puisqu'encore une fois, encore ce matin, à la cocarde étudiante, dénonçait le port d'une arme d'un militant et d'un opposant politique. Les actes de vandalisme, d'attaque physique, au couteau, à la batte par des militants d'extrême-gauche, ça dépasse le cadre de cette adversité politique dans les prétoires, dans les assemblées, etc. Et je crois que c'est, et encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais c'est un peu l'éternel débat jusqu'où, et je me souviens avoir discuté de ça avec Paul Lefebvre, en 2000, après à La Roche-sur-Yon, si je ne dis pas de bêtises, suite à l'assassinat terrible, à l'attentat qui visait le Père Hamel, jusqu'où allons-nous tomber, enfin jusqu'à quand et jusqu'où tomberons-nous pour enfin nous dire bon, bah, en fait, on va peut-être arrêter de penser que c'est un problème politique qui va se résoudre par deux réformes, et jusqu'où tomberons-nous pour enfin se dire ah, bah oui, le problème dépasse largement la régulation du port du couteau en France. Voilà, c'est pour être encore une fois, évidemment, encore une fois, dans les grandes lignes, dans les grands traits, mais...
Mais le problème, c'est que la responsabilité de celui ou de ceux qui marqueront cette rupture-là, elle sera immense, et qu'il faudra être capable de l'assumer le jour où on assume que le combat n'est plus politique, mais qu'en fait, il passe par, pas forcément un affrontement physique, mais en tout cas, qu'il passe par une lutte comme ça, acharnée en dehors des arcanes traditionnels du pouvoir. Bah, je pense que ça implique une énorme responsabilité parce que...
Mais est-ce que c'est pas l'histoire du monde en réalité?
Oui, mais c'est un peu la définition de l'anarchie, donc...
Mais pas du tout, enfin, si à la fin des fins c'est pour justement remettre un ordre juste et bon, cette base de combat n'est pas choquante.
Enfin, sur le moment ça reste de l'anarchie, et l'anarchie en soi...
Ah bah d'accord, dans ce cas on fait plus rien.
Non, mais c'est pas ça.
On se laisse perdre. Et on continue...
Bah, de fait aujourd'hui, et Stanislas vous en êtes le meilleur exemple... on peut encore mener des combats, vous l'avez fait
bien sûr.
De manière admirable. Donc moi je dis pas que c'est pas possible et que ça n'arrivera pas, simplement la personne les personnes qui acteront cette rupture dans le débat politique et qui instaureront ce vrai rapport de force dans les autres sphères du pouvoir que les sphères du pouvoir traditionnelles, auront une responsabilité, parce que peut-être que l'anarchie arrivera, mais ceux qui la causeront...
Ah, être un chef, c'est prendre ses responsabilités aussi.
Ouais, peut-être que ce sera juste et prudent à ce moment-là, mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier, en fait, le poids de cette... de cet élément-là.
Oui, et puis d'autant, rappelons-le, c'est pas ce que nous souhaitons évidemment pour le pays. Non, mais c'est vrai, soyons précis là-dessus. Paul Lefebvre, peut-être toujours sur ce sujet avant de poursuivre sur les sujets, les thématiques de notre émission.
Non, et moi, c'est ce que je dis. Mais en fait, ça dépend des exemples que vous prenez. Pour reprendre l'exemple du père Hamel dont vous parliez, en fait, si la question c'est est-ce qu'il faut reprendre les méthodes de la gauche, bah évidemment que non. Enfin, de nos ennemis, bah évidemment que non. Quand ça a conduit à des actes d'une telle violence. Après, est-ce qu'il faut aussi. Enfin, je pense que ça n'empêche pas de se défendre et de défendre la France. Et on peut le faire sans prendre tout à fait les méthodes de nos adversaires. Sans être un paillasson et se laisser marcher dessus, on peut tout à fait.
Oui, mais ce que vous dites, c'est être dans la défense et jamais dans l'offensive. Et en fait, c'est.
Non, pas du tout. Je pense qu'on peut être dans l'offensive, mais en ayant des méthodes honnêtes, tout simplement.
Et oui, moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Paul, c'est vrai que moi, je pense que le jour, et on en parlait là sur les réseaux sociaux, sur les espèces de meutes qui se sont organisées comme ça pour cibler des personnalités à tort ou à raison, je pense que le jour où on considérera qu'il faut agir par ces mécanismes, qu'il faut agir de la même manière que l'extrême gauche en manifestation, sur les réseaux sociaux, en ciblant des personnalités dans leur vie privée, en les attaquant en dehors, des idées politiques, moi, je pense qu'on se sera vraiment fragilisé. J'ai peur d'ailleurs que ça nous menace de manière très pressante. Parce que, imaginons qu'on mène ce combat-là avec ces armes-là, c'est-à-dire des armes relativement basses et des attaques personnelles, et qu'on gagne, je pense qu'on n'arrivera pas à garder le pouvoir. Puisqu'à ce moment-là, l'opposition sera d'autant plus forte que nous serons au pouvoir. Et donc, finalement, on va arriver dans un système de. Comment dire, d'instabilité qui serait extrêmement dommageable. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à la fois sur des sujets qui sont importants, comme l'était par exemple le sujet de cette chronique là d'un islamiste sur le plateau de C'est à vous. Ça, je pense qu'il faut être capable de réagir.
Mais il était islamiste, enfin, il avait une barbe et... Mais non, mais en fait, cet image-là, c'est ça.
C'est les mêmes personnes qui
arrivent pas à combattre en réalité, qui arrivent pas à dire, qui disent oui, l'islam est compatible avec la République, il faut l'immigration, il faut la réguler. Et en fait, ils voient, et pardon, moi, c'est un argument que j'ai trouvé très bon à gauche, c'était dès qu'ils voient un barbu dans le service public, ils se mettent à hurler. Mais c'est la conséquence de 40 ans de politique migratoire ouverte aux quatre vents et de vannes ouvertes aux quatre vents. Le type, en réalité, pardon, on ne sait absolument pas.
Il n'aurait pas une barbe, il n'aurait pas été. Ce serait été quelqu'un qu'on connaissait déjà. Peut-être qu'on n'aurait pas eu cette réaction-là.
Il a quand même pris des positions pour la charia, etc.
Oui.
Ah, mais attendez, je dis pas que ce n'en est pas un. Je dis simplement qu'au moment où il se fait tomber dessus pour ça, parce que c'est un arabe qui est à la télé.
Ouais, je pense que c'est un peu excessif. Mais en tout cas, juste pour finir mon.
Moi, je les ai vus tomber dessus le soir même sur les réseaux.
En tout cas, moi, je pense que.
Pardon, et sur Apathy, pardon, je vous laisserai finir après, excusez-moi, mais Apathy, et encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve ça honteux, et pour moi, Apathy est un ennemi aussi des intérêts nationaux. Simplement, il ouvre un débat qui dure 5 minutes sur RTL en disant, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs ce qu'il a dit, que si c'est passé en Algérie, en réalité, c'est 120 ou 130 au radeau sur Jeanne. Il ouvre un débat historique, évidemment ultra clivant, notamment dans ce contexte de tension, de l'euphémisme avec l'Algérie. Enfin,
Moi, je suis d'accord, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille censurer Apathy. Mais il faut simplement rééquilibrer les choses.
Mais ce n'est pas nous qui décidons de la censure d'Apathy. Là, moi, j'ai trouvé
pour le coup.
C'est la pression.
C'est quand même une pression nombreuse.
Moi, j'ai trouvé ça bien, juste pour finir ce que je voulais dire, je trouvais ça très bien que sur ces sujets qui, à mon sens, sont relativement graves, même si voilà, on passe sur la question de l'émission de C'est à vous, quand il y a vraiment des sujets qui méritent une réaction, je pense qu'il faut employer les moyens des réseaux sociaux, il faut employer une forme peut-être un peu injustice, enfin, voyez, de provoquer un peu pour faire réagir les institutions. Ça ne me dérange pas quand c'est grave. Mais le risque, c'est d'utiliser ces moyens de manière un peu absolue et systématique et que ça affaiblisse par là même nos vraies positions. Moi, je pense que la droite aujourd'hui, même les partis de droite d'aujourd'hui qu'on peut critiquer, voilà, ont vraiment une ligne idéologique qui existe, ce qui n'est pas le cas chez la France insoumise. Eux, pour le coup, ont fait de TikTok leur ligne politique et de cette politique superficielle leur stratégie. À droite, c'est pas encore le cas, et je pense qu'il faut maintenir une certaine exigence sur le plan des idées et de pas toujours reprendre systématiquement ces armes de la gauche, parce que le jour où on gagnera, c'est ce qui nous permettra de durer.
Et je me permets simplement d'ajouter, pour terminer, que et notamment l'activisme judiciaire qui est extrêmement utilisé par la gauche, à mon sens, devrait l'être plus par la droite. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient permettre de débloquer des situations, de faire monter des sujets. Et voilà, il y a, enfin, en fait, la gauche est intransigeante et mène beaucoup d'actions et contre la droite. On en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'en fait, on devrait simplement faire pareil pour faire avancer nos idées.
C'est pour conclure sur ce débat, important de le rappeler, ce que vous venez de dire, Paul, est extrêmement important, puisque nous avons trop longtemps sous-estimé, ou surestimé plutôt pour être précis, la résistance de la gauche, qui en réalité, face à la pression, n'a pas plus de courage que les gens de droite. C'est-à-dire qu'une fois sous pression, une fois attaqué, ou une fois que leurs erreurs, leurs fautes, leurs saloperies sont révélées au grand jour, ils ont la même panique que les gens de droite qui pendant longtemps étaient assez lâches.
Et d'ailleurs, je me permets de terminer sur le sujet de la justice. Évidemment que beaucoup de magistrats sont de gauche, etc., y compris au Conseil constitutionnel dans ces instances-là. Simplement, si les décisions sont aussi unilatérales, c'est parce que la droite n'a jamais fait ce travail d'influence et de saisine. Je parle notamment du Conseil constitutionnel, puisqu'ils ont rendu une décision aujourd'hui intéressante sur l'inéligibilité. S'il y a eu beaucoup de décisions de gauche, on pense notamment à la décision sur Cédric Herrou, etc., au nom du principe de fraternité, qu'on ne pouvait pas interdire d'accueillir des migrants illégaux et tout. Je rappelle que, par exemple, tous les citoyens, toutes les associations peuvent intervenir devant le Conseil constitutionnel, proposer des arguments juridiques dans un sens ou dans l'autre quand il y a une affaire, et que la droite ne le fait jamais parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on ne prend pas le temps. La gauche le fait systématiquement. J'ai noté que sur la décision de tout à l'heure du Conseil constitutionnel, l'association Anticor notamment était intervenue, donc avait pris un avocat, produit des écritures, etc., pour défendre son point de vue. Forcément, s'il y a un point de vue argumenté qui est le seul qui est produit, qui est celui de la gauche, le juge, qu'il soit flemmard ou qu'il soit gauchiste, ou les deux, il va reprendre cet argumentaire-là. Et donc c'est pour ça que là-dessus, comme sur tout un tas d'actions, je pense que la droite gagnerait à s'organiser et à agir.
Écoutez, Paul, vous nous faites en plus une transition parfaite, puisque nous allons parler de ce cas lié au Conseil constitutionnel avec Marine Le Pen dans quelques instants, mais maintenant, place à une petite pause musicale.
En ce temps-là, dans un village loin d'ici, jeune soldat, il avait un peu peur pour sa vie, drôle de bidasse, qui avançait dans le djebel, il tremblait pour sa carcasse devant le fusil des rebelles sur le quai d'une gare. Certains chantaient le déserteur Saint-Lazare. Lui, il avait l'esprit ailleurs. Il regardait une femme et un petit garçon qui ne comprenaient pas les mots de la chanson. Alors, il pose sur la table une rose des sables, et il a le cœur lourd, car tous ses souvenirs l'entraînent, ses souvenirs l'enchaînent à ce djebel amour. Ça fait longtemps qu'il est revenu d'Algérie, il y a des moments qui marque à jamais une vie, et quelques soirs, quand il traîne un peu au comptoir, il peut pas s'empêcher de raconter son histoire pour ses enfants. C'est un mot qui ne veut rien dire pour ses parents. C'est un bien cruel souvenir pour ses amis, c'est une carte de combattant, mais ça reste pour lui 36 mois à 20 ans. Alors, il pose sur la table une rose des sables, et il a le cœur lourd, car tous ses souvenirs l'entraîne,
ses souvenirs l'enchaînent à ce Djebel amour. Ses souvenirs l'enchaînent à ce Djebel amour. C'est une fille au bout d'un quai, un pays qui s'en va, un cadeau emporté. Ce n'est qu'une rose des sables qu'il pose sur la table quand il a le cœur lourd. Alors les souvenirs l'enchaînent à ce Djebel amour.
Chers amis, nous voici de nouveau pour cette dernière partie de l'émission Prolongation. L'émission passe vite quand on est avec quand on est en bonne compagnie. En l'occurrence, je suis avec Emmanuel Mistral et Paul Lefebvre. Bonsoir messieurs, pour la troisième fois, pour la quatrième fois. Il faut évidemment que vous ayez conscience, chers auditeurs, que les débats sont passionnés hors antenne également et que nous n'avons pas pu profiter des deux chansons en réalité de Jean Palz, mes frères, de ces deux merveilles qui ont fait vibrer tant de générations et j'espère qu'ils continueront ces chansons qui continueront de le faire. Pour cette dernière partie, peut-être le sujet encore évidemment, puisque nous allons nous prêter à un exercice de fiction. Et si Marine Le Pen était inéligible le 31 mars prochain? Alors, évidemment, en préambule de ce propos, nous ne le souhaitons pas, et ce serait évidemment scandaleux que Madame Le Pen ne puisse se présenter à l'élection présidentielle. Et deuxièmement, cette discussion n'a pas pour objectif d'être des Madame Irma en puissance un vendredi soir en vos compagnies, chers auditeurs, mais bel et bien de se prêter à ce jeu, d'imaginer ce que serait la situation politique et dans le pays si Marine Le Pen n'était plus candidate, ne pouvait plus se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Paul Lefebvre.
Évidemment, comme vous l'avez dit, d'abord, ce serait scandaleux et ce serait signe à la fois d'un affaissement du niveau et même démocratiquement, ça poserait un vrai problème. Ceci dit, je ne sais pas si... en fait, il y a deux choses. C'est que d'une part, je pense que le passé a montré que c'était pas la meilleure candidate pour représenter nos idées, parce que au-delà des scores, je pense pas qu'elle soit en mesure de remporter l'élection.
Encore aujourd'hui.
Et en même temps, si ce n'est pas elle, qui serait mieux placée? Et je pense que dans son parti, en tout cas, on n'a personne de tel. Donc, de toute façon, évidemment, même sur le principe, on ne souhaite pas ça. Mais en fait, est-ce que ça changerait beaucoup de choses? Je ne suis même pas si sûr.
Emmanuel.
Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais moi j'ai peur. C'est vrai que cette décision est très délicate, et pour avoir lu, comme vous, je pense, Paul et Stanislas,
Le Figaro.
Dans Le Figaro et ailleurs aussi, la décision du Conseil constitutionnel de ce matin par rapport à cet élu mahorais. La question est très délicate et j'ai peur que de l'issue de ce procès, à vrai dire, sur la question de l'exécution provisoire. Mais je pense que si jamais Marine Le Pen était condamnée, ce serait dommage, évidemment, parce que ça créerait, à mon avis, une très forte instabilité. Elle a été trois fois déjà, de mémoire, candidate à la présidentielle. C'est aujourd'hui une personnalité, mine de rien, qui est extrêmement, extrêmement appréciée par beaucoup de Français. Et qui est toujours en tête, enfin pas forcément en tête, en première place, mais qui est très bien placé dans les sondages. Et donc, une période politique très compliquée, avec un Premier ministre qui n'est pas du tout plébiscité et un président qui l'est encore moins, je pense que ce serait vraiment, vraiment délicat. et d'autant plus délicat que la guerre, à mon avis, au sein du Rassemblement National, serait très compliquée, je crois, puisque Jordan Bardella a prouvé cet été qu'il n'avait pas la carrure pour être Premier ministre. Je crois, enfin, Stanislas me fait une moue, mais en tout cas, je crois même...
Quand... Pas sur, c'est pas de la faute de Jordan Bardella s'il n'a pas gagné l'élection. Hein.
Non, bien sûr, mais d'ailleurs, j'ai cru le lire dans certains articles qu'en interne aussi, s'était rendu compte que Jordan Bardella n'était pas forcément sur le moment prêt à cela, et ce qui est compréhensible, mais, évidemment.
Il sortait de 9 mois de campagne,
évidemment, non, mais évidemment.
Il était attaqué de toutes parts, il a enchaîné 15 débats,
bien sûr, bien sûr.
Pardon, pendant que d'autres étaient bien planqués.
Non, hein, mais c'est pas forcément le jour malheur, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas du tout le meilleur moment pour Jordan Bardella.
Pardon, mais le fait que ça ait été le candidat à Matignon, que ce soit lui... malgré ses résultats en interne dans le parti, en réorganisation du parti, recrutement de cadres, formation, etc. Au-delà de sa campagne européenne qui a été évidemment sans faute, mais pour le reste, le fait qu'il ait été choisi montre peut-être justement qu'en interne, le vivier de profils compétents n'est peut-être pas si énorme qu'on le croit.
Oui, mais ça se travaille. C'est-à-dire que c'est du travail sur le long terme de former une nouvelle génération d'avoir des cadres efficaces dans les années
à venir. Oui, peut-être. Puis, mais c'est
d'ici 2027, mais donc, ça va être compliqué.
Ce que vous nous dites,
depuis les années 70, il y aurait eu le temps de le faire, d'ailleurs.
Ce que vous nous dites tous les deux, c'est que si Marine Le Pen était inéligible, vous ne voyez pas Jordan Bardella aller à la présidentielle ou la remporter.
Je pense qu'il ira.
Ah, moi, je pense... Non.
Enfin, je pense qu'il ira parce qu'il n'y a personne d'autre et que le RN devra présenter un candidat. Je pense pas qu'il... Je suis même pas sûr qu'il soit au second tour.
Oui, il ira. Oui, en fait, on est d'accord. Il ira, mais il ne sera pas au second tour. Oui,
ah oui, vous pensez qu'il ne serait pas au second tour?
Non, je pense pas. Et
est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'élection de 2027 soit l'élection des jeunes loups de la vie politique française? Si on regarde un peu, si Marine Le Pen est inéligible, Gabriel Attal pour le clan centriste.
Stanislas Rio, non.
Jean-Luc Mélenchon n'y va pas parce qu'il est trop âgé. Avec une Clémence Guettet. Si Sarah Knafo à Reconquête essaie d'y aller, si Jordan Bardella y va, est-ce qu'on peut, on peut se retrouver avec une présidentielle junior, si je puis dire,
moi,
en termes d'âge?
Non, personnellement, je n'y crois pas.
Oui, moi non plus.
Je prendrais comme exemple la parenthèse Gabriel Attal. Pendant quelques mois, tout le monde s'est pâmé de ce jeune...
10 ans de parenthèse Macron, hein.
Oui, mais on est là pour revenir sur... Oui, c'est vrai, bien vu, mais on est quand même revenu assez facilement sur Michel Barnier et François Bayrou. Et
moi, pour Gabriel Attal, pardon, mais...
Vous avez coupé la parole de façon très vulgaire à Emmanuel. Mais allez-y,
non, mais...
Pardon, il est ultra...
Les missions sont venimes.
Non, mais il est ultra plébiscité dans son parti, hein, pour le coup.
Gabriel Attal, ouais. Bien sûr, non,
donc,
mais je comptais ce passage.
Par les cadres ou par
les militants, par les
il
deux.
Il est populaire encore.
D'ailleurs, ouais, les
oui,
deux, il est
moi,
très populaire.
Je suis plutôt d'avis de croire au retour... Et alors là, je vais vous dire, je vais vous livrer une analyse très personnelle, comme toutes mes analyses. Mais je pense, et actuellement en tout cas, qu'il va y avoir un retour justement à cet amour des vieux politiques installés pour les Français parce qu'ils sont gage de stabilité.
Et Michel Barnier.
Mais exactement, Barnier-Bayrou manœuvre extrêmement bien depuis quand même plusieurs semaines. Il a réussi.
Mais est-ce qu'il joue sur ce terrain? Je ne sais pas.
Bayrou
s'écroule dans toutes les enquêtes d'opinion. Hein.
Barnier joue sur
mais
ça,
mais il tient bien.
Bah, oui, mais, ah oui, mais pas avec l'opinion, avec l'Assemblée.
Mais c'est ce que je vous dis, avec les deux.
Sauf que c'est pas l'Assemblée qui est le président.
Mais Barnier était populaire, lui, à l'inverse, à l'extérieur de l'Assemblée, il s'est fait censurer.
Populaire, c'est un grand mot.
Populaire, non, mais il était plutôt plébiscité et il était
pas détesté.
Et aujourd'hui, c'est fou la présence qu'il a encore aujourd'hui dans les médias. Et dans l'opinion, alors même qu'il est censé avoir été...
Et qu'il n'a jamais rien fait pour...
Bien sûr.
Mais Bayrou, Barnier, Mélenchon, Marine Le Pen, Zemmour, etc. Moi, je constate, Dominique de Villepin, François Fillon qui ressort, moi, je crois vraiment qu'il y a aussi cette quête de socle, de stabilité, fait, qui rassure les gens parce qu'ils rappellent aux Français que c'était un peu mieux quand ils prenaient la parole il y a 30 ans. Et c'est eux qui ont plombé le pays pour la plupart des gens que je viens de citer, bien sûr.
Et moi, d'ailleurs, pour revenir sur l'exemple d'Emmanuel Macron, je suis pas sûr. Alors, effectivement, il a été élu parce qu'il était jeune, parce qu'il incarnait la nouveauté. Mais déjà, il est quand même, je pense, beaucoup plus. Il était plus âgé que ne l'est aujourd'hui Gabriel Attal, de mémoire. Il a été élu à 38 ans.
37, il me semble. 38.
Et moi, je pense qu'il a été plus élu par la proposition ou l'absence de proposition qu'il incarnait que juste pour son, par rapport à son âge et par l'effet de nouveauté d'un jeune après François Hollande. Je pense que c'était vrai sans doute, peut-être un peu par exemple pour Valéry Giscard d'Estaing à côté de François Mitterrand, voilà. Je pense que c'est pas forcément le cas pour Emmanuel Macron, et je suis convaincu que plus les années passent, plus effectivement, surtout les générations plus âgées qui sont extrêmement nombreuses, cherchent en fait une stabilité avec des personnalités, comme vous le dites.
Moi, je pense plutôt qu'il y a deux choses qui justifient ce goût éventuellement pour les vieux politiques, entre guillemets. Un, c'est que les gens ne connaissent pas les personnalités politiques parce que dans l'immense majorité des cas, personne ne suit les élections. Donc quand ils arrivent dans l'isoloir, les trois personnes qu'ils connaissent, c'est Mélenchon, Le Pen et Macron, en gros, en ce moment. Donc forcément, Mélenchon et enfin ces trois-là ont une prime de notoriété énorme dans les résultats électoraux. Et deuxième chose, pour prendre plutôt les Barnier, Bayrou, Villepin, c'est qu'en fait les gens n'aiment pas les politiciens et que ça fait tellement longtemps qu'on les entend pas ceux-là que je pense qu'ils sont même plus considérés comme des politiciens, notamment Villepin, qui passe plutôt pour un directeur d'ONG que pour un homme politique aujourd'hui dans les médias.
Et un mauvais directeur d'ONG, mais
plutôt bien payé pour un directeur d'ONG, mais c'est un autre problème.
La diffamation.
Je pense que c'est ce qui justifie que les gens puissent avoir un peu apprécier ces gens-là.
Et alors moi, je vous rejoins sur le premier élément qui est très juste, et d'ailleurs, c'est même, il faut le reconnaître, Nicolas Sarkozy qui avait cette analyse, attention, hein, pas brillantissime, mais en tout cas qui avait le mérite d'être dite, c'était évidemment sur l'aspect, le rapport aux médias entre sa génération et la nôtre, et en tout cas celle d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 15 matinales quotidiennes, qui permettent donc d'avoir une flopée de personnes qui interviennent dans les médias rapidement, qui peuvent gravir les échelons, avoir une exposition notamment aussi avec les réseaux sociaux, contrairement à une époque où, évidemment, pour passer sur la Une, sur Europe 1, il fallait batailler, sur Radio Courtoisie aussi, qui conserve, elle, Radio Courtoisie, son prestige, sauf ce soir, évidemment, je rigole, mais là où je ne suis pas d'accord, où je compléterai tout du moins, c'est que Villepin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Mélenchon qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Zemmour qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quand ils prennent la parole sur une émission d'une heure, ils ont un discours, ils ont des choses à dire, ils ont une culture. C'est-à-dire que Barnier, même Bayrou, qui est lui très mauvais en termes de forme, ils ont, je dis pas qu'il est brillant sur le fond, je dis simplement que c'est des personnes sans fiche, sans éléments de langage, ils font une heure d'émission facilement. Et moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression, quand j'ai tous les grands rendez-vous du dimanche, sur RTL, enfin sur d'autres chaînes que Radio Courtoisie, mais au bout de 10 minutes, on s'emmerde. Et moi, les seules matinales, alors que j'étais, et vous le savez, cher Paul, un féru d'émissions politiques, les matinales maintenant, de plus de 20 minutes, ça m'agace, sauf quand il y a évidemment une annonce ou un sujet précis. Mais...
Et je pense, Nélisa, que c'est pas tant une question, vous l'avez dit pour Bayrou, de fond. De contenu intellectuel, de grande dimension idéologique, c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire que Bayrou, il a beau avoir tous les défauts qu'on lui connaît, il a une carrière politique qui est extrêmement longue et il a une espèce de charisme par cette carrière. Il a vécu des choses, il peut prendre des exemples, il a traversé des ministères. Le charisme au sens où... c'est vrai que c'est pas la meilleure
expression. C'est pas le mot qui nous vient à l'esprit, la
expression.
L'énergie.
Non mais on...
Vivacité.
Je pense qu'on a, même nous, je pense qu'on a une forme de respect pour lui, étant donné la longévité qu'il a.
Et
je
moi,
pense
c'était que mon voisin à l'époque, en plus. Je le connais très bien.
Toujours, d'ailleurs. Il l'a gardé. Il ne vit pas à Matignon. Ah, il vit toujours...
Oui, mais j'ai déménagé, cher ami.
Bref.
Ça vaut le coup de nous inviter à déjeuner le dimanche.
Mais je pense que Bayrou profite de ça, et que globalement, les personnalités politiques que vous avez citées, là, un peu plus âgées, auprès de l'opinion, ont ce crédit-là. Voilà, je pense que plus que charisme, c'est une forme de crédit, alors que quelqu'un comme les personnalités plus jeunes que vous avez citées, hein, Gabriel Attal, une Clémence Guettet et une Sarah Knafo, momentanément, elle profite d'une certaine audience, elle profite d'une certaine résonance, mais à une élection présidentielle, je pense qu'on joue sur un autre terrain, et qui est pas le même que celui des émissions habituelles et même des élections européennes. Je pense que c'est pas du tout la même stature qui s'impose lors d'une présidentielle. Je pense que c'est un exercice d'ailleurs très particulier. Hein,
et ce qui revient à ce qu'on disait au départ, c'est que si Marine Le Pen est inéligible, Enfin, Jordan
Bardella
pas...
ne la remplacera pas
et personne ne la remplacera.
Mais c'est intéressant ce que vous dites.
Et c'est d'ailleurs pour ça que, si je peux juste...
Vous en prie, allez-y, c'est un manque de respect inouï. Mais...
c'est pour ça d'ailleurs que cette décision du tribunal pénal serait problématique. C'est parce que Marine Le Pen, elle incarne quelque chose de très spécial en France, qu'elle est présidentiable, parce qu'elle est une vraie...
Je pense que c'est problématique
en soi, sur le principe, d'empêcher quelqu'un de se présenter à une élection, de toute façon.
C'est quoi qu'il est fait d'ailleurs. C'est problématique en soi.
Ah oui, je pense.
Que ce soit
Marine Le Pen ou le maire de je ne sais plus quel département d'outre-mer,
L'élu
Mahorais, exactement en question. Je pense que ça reste le même problème.
Je ne suis pas d'accord parce que si on reprend la décision de ce matin, de mémoire, alors c'est un peu technique, mais le Conseil constitutionnel ne conteste pas la décision qui a été prise par le tribunal pénal.
Ce qui montre déjà que c'est un problème, mais...
Et parle d'une réserve par rapport à la liberté de l'électeur. Je pense que cette liberté de l'électeur, elle ne vaut pas pour toutes les personnalités. Elle vaut, à mon sens, que pour certaines personnalités, comme Marine Le Pen, qui ont un poids particulier. C'est normal que quelqu'un soit rendu inéligible si...
Je ne vous rejoins pas, mais je vous prends des exemples très concrets.
Pour moi, ça veut pour des personnalités qui pèsent particulièrement.
Mais c'est pas parce que quelqu'un a passé le concours de l'ENM que c'est lui qui décide qu'il doit se présenter devant les électeurs.
Les textes,
ce qui est scandaleux, c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, et vous l'avez cité, quand c'est sur la liberté de l'électeur, je crois que ça va plutôt aller dans le sens, ce qui a été dit, de Marine Le Pen qu'autre chose, si on est très, très franc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marine Le Pen ce qui est sorti.
Oui, plutôt.
Plutôt, même plutôt beaucoup, je crois, sans être dans le secret des dieux, mais ils se prennent pour qui ces gens-là? C'est-à-dire qu'en fait, ils se permettent d'avoir des trucs les plus flous possibles. Ils nous ont intégré le bloc de constitutionnalité. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai, ce qu'ils veulent. Et surtout, ce que vous dites, c'est très juste au niveau de la présidentielle. Moi, je répète, ça serait évidemment scandaleux que Mme Le Pen ne puisse se présenter à l'élection. Simplement, deux choses d'une. Si, à Paimpol, une de la personnalité donnée gagnante dans tous les cas de figure est inéligible, il n'y aurait pas s'élever de bouclier et on la laisserait tomber. Parce qu'on se dirait, mais après tout, c'est que Paimpol. À quel moment, dans votre raisonnement, on se met à se dire c'est une personnalité importante
qu'il faudrait défendre la personne donnée perdante dans tous les cas de figure, même à Paimpol.
Il y a une certaine logique que quelqu'un qui est condamné ne puisse pas représenter les Français à l'élection.
Je pense qu'il ne faut pas pénaliser la morale, et normalement en conscience.
Mais si l'infraction concerne son mandat, là en l'occurrence c'est le cas de Marine Le Pen.
C'est pas le mandat pour lequel elle se présenterait en l'occurrence.
Ça touche en fait de près ou loin.
Si des gens restent en poste après avoir en effet commis.
Non, mais moi je trouve qu'il y a une certaine logique à cela.
Il y a des mécanismes qui sont prévus pour ça.
Il y a une certaine logique à cela, et à mon avis, cette décision, le fait de condamner une personne qui a commis une infraction dans le cadre de ses mandats à ne pas se présenter, ça me paraît cohérent. Mais je conçois évidemment, et c'est le cas de Marine Le Pen, qu'il y ait une exception sur l'application de la peine quand la personne a une dimension particulière, parce qu'effectivement là ça fausserait tout à fait le jeu. Alors, et c'est disproportionné que Marine Le Pen, qui a été condamnée pour un cas très précis au Parlement européen, ne puisse pas se présenter à une élection stratégique en 2027 à la présidentielle.
On est d'accord,
là, une disproportion.
Mais attendez, nous on est d'accord sur ce dernier point. Simplement, encore une fois, c'est les Français, alors vraiment, je le crois, et vous inquiétez pas, ça serait rabâché à tout débat de toute élection, quelle que soit la taille de la ville, de l'enjeu de l'élection. Si quelqu'un est condamné, même pour meurtre, mais qu'il a purgé sa peine après sa prison, je vois pas pourquoi il pourrait pas se présenter tel qu'est faite la démocratie. Et je vous prends un exemple très concret, parce que moi, dans le Vaucluse, j'étais candidat à l'époque, et j'ai face à moi un tueur en série. Quelqu'un qui sortait de prison. Qui était candidat face à moi, alors qui est venu, que j'ai rencontré sur un marché, je ne savais pas qui il était. Et en fait,
on est d'accord que c'est problématique.
Et on l'appelait le bout. Il a fait
vous
zéro.
Je ne savais pas aussi démocrate.
Une fois qu'on joue avec les règles de la démocratie,
soit on part du principe que la démocratie n'a pas lieu d'être.
Débat, je l'aurais attaqué.
Et dans ce cas, on accepte que c'est les juges qui décident qui concourt aux élections. Soit on part du principe qu'on est en démocratie et qu'on préfère que ce soit 40 millions d'électeurs plutôt que quelques milliers de juges qui décident. Et dans ce cas, on joue le jeu.
Bah, en dehors du cas de Marine Le Pen, qui, encore une fois, moi, me paraît disproportionné, si ça peut permettre de contraindre un peu et de faire pression sur les hommes politiques pour qu'il y ait peut-être moins d'excès dans leur gestion, notamment de leurs collaborateurs et tout ça, moi ça me choque pas. Et si ça peut...
Moi il faut les faire payer.
Mais qu'il y ait des sanctions pénales très fermes,
mais
ça,
si ça peut
pas,
crédibiliser le personnel politique.
Même, mais moi, en fait, si elle est en prison, hein.
Si, exactement. En fait, si jamais, si jamais elle est coupable, qu'elle fasse de la prison ferme, ça me choque pas. Par contre, qu'on empêche les Français de se prononcer, ça me choque.
Et donc vous, par exemple, ce qui s'est passé au Brésil, là où Lula a été emprisonné et puis après a pu se représenter et devenir président, ça vous gêne pas?
Ah, pas du tout.
Ah, moi je trouve ça problématique.
Bah, dans ce cas,
je trouve que le métier, la politique a une certaine noblesse et je trouve ça dommage que des gens.
Tous les politiques ne sont pas nobles.
Oui, mais si les Brésiliens ne sont pas d'accord avec vous, ils font ce qu'ils veulent.
Moi, je trouve ça très bien que le juge établit justement la noblesse de cette profession particulière. C'est ce qu'il fait quand il condamne.
C'est le problème.
Il dit qu'en fait, il ne mérite pas.
C'est au politique de faire le droit et c'est pas au droit de faire la politique. Mais c'est évident. Bah alors ça, moi je vous le dis, le droit il est pas immuable. Qui sont ces gens du Conseil constitue.
Mais le droit, ce droit-là, il est pas né tout seul. Il a bien été décidé par quelqu'un.
Bah oui, par des politiques. Ils se sont fait voler le pouvoir par des juges, par des politiques lâches et pouvoir qui les ont laissés.
Sur ce sujet, je vous ai trouve ça très bien que le droit oblige dans la Constitution.
Non mais attendez, qui est des critères d'éligibilité, d'incompatibilité. Oui, qu'il faille être majeur, etc. Très bien, ok. Mais par contre, que en fait, c'est juste la question de la légitimité. Qui est le plus légitime? Est-ce que là, ça va être la présidente de je ne sais quelle chambre du tribunal correctionnel de Paris, ou est-ce que c'est 45 millions d'électeurs? Et si jamais il y a un conflit de légitimité entre les deux, ce qui serait le cas, qui doit décider? Qui doit trancher? Est-ce que c'est la juge Tartampion, ou est-ce que c'est 45 millions d'électeurs? Évidemment que si on se fait si on accorde un minimum de crédit à la démocratie, on doit favoriser les électeurs.
On peut jouer le jeu de la démocratie sans avoir une conception non plus absolue de la liberté de l'électeur.
Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, on peut demander au Conseil constitutionnel de nommer le président, ça ira plus vite.
Bah non.
Ils seront peut-être plus avisés que nous et plus avisés que les électeurs.
Je trouve que vous êtes un peu excessif parce qu'aujourd'hui, on remarque très bien qu'on a un problème de crédibilité du personnel politique. Tout le monde est d'accord pour dire que le niveau se dégrade.
Et pourquoi ils votent pour ces gens-là alors?
Bah oui.
Bah oui, mais sauf que
vous prenez pas les électeurs pour des gens bêtes.
Non, mais de fait, je pense que c'est assez logique que le droit aujourd'hui ait une forme de comment dire, pas de persuasion, mais que donne un cadre qui soit un peu contraignant et que ça oblige le personnel politique à acquérir une exigence un peu plus forte. Et moi, je trouve ça dommage. Imaginons que quelqu'un, en dehors encore une fois du cas de Marine Le Pen, que quelqu'un qui ait commis des infractions relativement graves puisse se présenter simplement parce qu'effectivement il y a un suffrage pour lui, bah, je trouvais ça dommage.
Eh ben moi je pense pas.
Parce que ça donne une image de l'État et une image de la politique qui est forcément un peu détériorée. Et
bah moi je pense
aujourd'hui
pas.
On empathie trop, je trouve.
Et je pense pas. Et je pense que c'est d'abord sur le plan des principes qui font que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est une question de légitimité et de faire confiance un peu aux électeurs. Et ensuite sur un plan beaucoup plus pratique, à l'heure où on a une crise des vocations, notamment d'élus locaux et de maires, qui est énorme, on a des élus qui démissionnent tous les jours, Aujourd'hui, franchement, un maire, il peut être condamné pénalement.
Je vois pas le.
Il y en a tous les mois.
Franchement,
il y en a tous les mois.
Et franchement, il y a des démissions tous les jours de maire, et à la moindre erreur, même parfois intentionnelle, il peut être condamné pénalement. Et je pense que le signal de dire en plus, c'est un juge qui peut vous retirer votre mandat et va venir vous chercher des poux pour ce que vous aurez fait, ça n'envoie pas un bon signal et ça participe de cette perte des vocations d'élus locaux. Et en fait, c'est à mon avis surtout ça le problème du crédit dans la vie politique d'aujourd'hui. C'est pas que des gens se présentent alors que selon vous et un juge, ils n'ont pas la moralité, mais c'est surtout que on dégoûte tout le monde de faire de la politique, donc les gens compétents, il y a beaucoup de gens compétents qui vont ailleurs et que on se retrouve avec ceux qui veulent.
Paul, je pense que si aujourd'hui les gens compétents ne veulent pas devenir députés, c'est parce qu'il y a Louis Boyer à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pense que c'est parce qu'il y a un abaissement à la fois du niveau intellectuel de l'Assemblée et du personnel politique.
Non, je pense que c'est l'inverse.
Moi je pense qu'il y a, de fait, il y a trop de gens qui ont à l'Assemblée qui ont un passif problématique et c'est pas normal qu'ils aient pu se présenter. Et de fait, il y aura toujours, c'est pas du suffrage universel, mais il y aura toujours des gens pour voter pour eux. Et pour les élire, parce que dans certains quartiers, de fait, la conjonction fait qu'ils peuvent être élus, parce qu'ils ont trouvé leur base électorale. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait un organe aujourd'hui, surtout un organe constitutionnel, qui, pour une fois, puisse justement donner un cadre à la politique qui soit un peu plus sain. Ça ne me choque pas du tout. Et alors, encore une fois, pour éclairer être précis sur Marine Le Pen, moi, ça me choquerait parce que ça fausserait l'élection. Je trouverais que ça impliquerait donc une implication du Conseil constitutionnel dans la politique qui est pour le coup très dangereuse. Mais de manière générale, ça ne m'étonne pas que le Conseil constitutionnel, enfin, en l'occurrence le tribunal, se prononce sur ces sujets-là.
Ben, attends, je vous prends un exemple très amusant parce que je reçois en ce moment même des messages d'un chroniqueur de l'émission, et avant de conclure l'émission, sur Hippolyte Laure Blanchet, pour ne pas le citer, qui est d'accord, il faut le dire, avec Emmanuel, puisque nous sommes à deux, si je puis dire, contre un. On a les alliés qu'on mérite. Non, mais attendez, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est les mêmes qui ont hurlé pour dire que Fillon, le pauvre, etc., il subissait des choses. Très bien, et moi, j'ai trouvé la cavale scandaleuse, et les électeurs, ils ont choisi à la fin. Les électeurs, ils ont vu Fillon dans la panade de façon judiciaire avant qu'il soit condamné. Ils ne l'ont pas choisi et il n'est pas allé au second tour. Les électeurs, quoi que vous en pensiez, Hippolyte et Emmanuel, parce que je vous réponds à tous les deux, quoi que vous puissiez penser des Français, à la fin des fins, ils sont éclairés, ils prennent leur décision en conscience. Ils n'ont pas besoin. Fillon n'a pas eu besoin d'être inéligible pour perdre l'élection. Il s'est pris une affaire dégueulasse ou pas, ce n'est pas le sujet, et ça l'a fait perdre. Chers amis, on se quitte sur cette note un peu vulgaire et un peu énergique. Emmanuel, un dernier mot, très rapidement peut-être.
Non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit.
Minutes.
Simplement, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une conception trop absolue de cette liberté de l'électeur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit très bien qu'avec l'opposition, notamment à gauche, qu'on connaît, ça pourrait mener très loin. Et je pense que c'est très bien que le juge...
Alors, moi, je dirais juste l'inverse, pour terminer en une seconde. C'est que si on admet le principe qu'un candidat puisse avoir l'interdiction de se présenter... C'est pour reprendre votre hypothèse de tout à l'heure dans laquelle la gauche arrive au pouvoir, etc., notamment, c'est extrêmement dangereux. Et dans ce cas, si on admet le principe,
ils vont nommer n'importe qui au Conseil constitutionnel.
Et on ne pourra plus jamais se présenter.
Et ils vont nommer Mélenchon, on aura Mélenchon panneau au Conseil constitutionnel, au président du Sénat.
Et ils choisiront les candidats.
Et ils choisiront les personnes.
Mais ça, c'est un autre sujet de la nomination au Conseil constitutionnel.
Non,
ça, c'est un vrai problème.
C'est eux qui vont décider qui est inéligible.
Non,
bah, c'est le sujet.
Que la nomination des juges constitutionnels soit politique, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais par contre, que le Conseil constitutionnel.
Comment on fait pour les faire élire?
Non, mais il faudrait changer le mode de désignation des juges constitutionnels. Mais par contre, qu'un organe aujourd'hui donne les conditions pour qu'une personnalité se présente aux élections, ça me paraît assez naturel.
Chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission qui est montée comme une veillée scout en puissance, mais qui n'est pas redescendue. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et à dans deux semaines. Merci évidemment à la régie pour son aide tout au long de l'émission. À très vite.
Merci Stanislas.
Vous venez d'entendre Prolongation dirigée par Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 28 mars 2025 de 21h30 à 23h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.